Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV,
c'est vous qui représentez le système.
Hello. 9h40 sur France Inter, l'instant M rend hommage à une très très grande voix de radio ce matin.
Vous êtes en direct, allez-y.
Pierre Belmar s'est éteint hier matin, il avait 88 ans. Les petits boulots à la radio, il les a commencés à l'âge de 19 ans. Il met en onde des feuilletons sur Paris Inter, oui, avant de devenir l'animateur et la voix qui firent les grandes années d'Europe 1, puis d'RTL aux grosses têtes. Pierre Belmar, également pionnier de l'ORTF et visage populaire de la télévision, sur Antenne 2, sur TF1, sur FR3, M6 et puis sur toutes les chaînes du câble. Un conteur populaire qui transformait chacune de ses introductions en récit, même pour ouvrir le télé-shopping, vous l'entendrez tout à l'heure. Pierre Belmar, l'inventeur surtout, qui ramenait des nouveautés de tous ses voyages américains. Pour raconter celui qui racontait mieux que personne, Patrick Lelay, ancien PDG de TF1, puis Philippe Gildas, que Belmar fit commencer à la télévision, et enfin Jacques Pradel, car Belmar fit école avec ses histoires vraies et autres faits divers.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Chers amis, bonjour, bonjour Marie.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Bonne fête Maria Pia, je peux dire ça, c'est ma fille, vous permettrez, comme c'est la Sainte Marie, c'est assez logique. Et oui, et lorsqu'on était voué à la Vierge Marie, oui. Les enfants étaient habillés de bleu.
Ah oui.
Les rois de France avaient d'ailleurs voué la marine française à la Vierge, c'est pourquoi il y avait sur les bateaux de haut bord français, il y avait une ligne bleue. Absolument.
Ah oui, couleur de la Vierge bleue.
Nous étions en 1987, Pierre Belmar n'a plus d'engagement à la télévision à cette époque. Il s'inspire d'un concept américain, le Home Shopping Network, et il crée sur TF1 la première émission de téléachat. C'est une révolution. Patrick Lelay est l'ancien président directeur de général de TF1, il est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Alors, bonjour monsieur. Alors Pierre Belmar était déjà un visage de TF1 très connu, très familier des téléspectateurs depuis de très très longues années, même bien avant que TF1 s'appelle TF1, dès la première chaîne de l'ORTF. Et en fait, la création du téléshopping coïncide peu ou prou, avec la privatisation de la chaîne. C'est le début d'une nouvelle télévision.
Ah oui, ça coïncide tout à fait, parce que 87, oui. C'est l'année où les deux chaînes, la 5 et la 6, sont stabilisées au niveau de leur capital. Elles ont été créées l'année d'avant, et où TF1 est privatisé.
C'est ça.
Donc on se retrouve devant une nouvelle donne, puisque les entreprises de télévision, à part ce qui reste du service public, c'est-à-dire la 2 et la 3, elles doivent vivre que de la publicité. Et à TF1, en mai 87, vous imaginez bien qu'il faut... Imaginez la grille de rentrée. On n'a plus de programme, on n'a plus de vedettes. À l'époque, Silvio Berlusconi, qui animait la chaîne 5, avait pris toutes les vedettes, Patrick Sébastien, Patrick Sabatier, Colaro, etc. Donc, on a bâti la nouvelle télévision avec finalement de vieux amis de la télévision, des nouveaux, Christophe de Chavannes, avec Ciel Bon Mardi, Nicolas Hulot.
Oui.
Jean-Pierre Foucault avec Sacré Soirée, et puis Pierre Belmar, qui était une vieille connaissance d'Étienne Moulin, est venu nous dire, écoutez, le matin, c'est une tranche difficile, parce que la 2 occupe le terrain. Moi, j'ai eu une émission formidable que j'ai vue aux États-Unis, on vend des produits du commerce à la télévision.
Alors au départ, Patrick Lelay, ça s'appelait le magazine de l'objet.
Et ça s'appelait pas le magazine.
Comment
de l'objet,
ça s'appelait alors
Ça s'appelait des télé-shopping, et l'activité de télé-shopping consistait à vendre des produits à l'antenne, ce qui n'était pas autorisé par le règlement. Et moi, je me souviens avoir justement vécu un grand moment, c'est qu'à l'époque, c'était pas le CSA qui contrôlait, c'était la CNCL.
Oui.
Et la CNCL, la dame qui s'occupait de ça s'appelait Madame de Galard, qui connaissait bien la télévision, une vieille amie de notre ami Pierre. Et lui, il lui avait fait un baratin du tonnerre, en lui expliquant que c'était pas du tout de la vente d'objets du commerce, c'était la promotion des objets,
le
magazine des objets, et que ça devait même rentrer dans les quotas de création française. Donc, il était allé assez loin, mais comme c'était un vendeur absolument remarquable, on a vu gain de cause.
Patrick Lelay, quand on revoit les émissions avec Maryse Corson, elles sont surprenantes, elles ne ressemblent plus du tout à ce que ressemble le téléachat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles sont tournées dans un pavillon de banlieue, avec un jardin, un intérieur bourgeois, un canapé en cuir, des rideaux en velours. C'est-à-dire que il y a vraiment une manière de rentrer chez les gens et de faire rentrer la caméra dans la maison du téléspectateur, finalement.
Oui, mais ça, c'était l'idée. C'était, disons, la transposition française d'émission américaine qui était beaucoup plus cash, on veut dire, oui. Sans trop de fioriture. Là, dans les émissions américaines, on vous met en avant l'objet et le prix. Et donc là, il fallait quand même mettre, justement pour faire le magazine de l'objet, il faut le mettre dans un cadre.
Oui.
Et on trouvait que ça correspondait mieux à l'esprit. Alors après, ça fait quand même maintenant 30 ans que ça existe en France.
Oui.
La réglementation a changé, elle a été un tout petit peu assouplie. Et donc, ça tourne plus vers le cash. D'ailleurs, beaucoup de chaînes ont imité le télé-shopping par la suite.
C'est ça, c'est ça. Et puis ensuite, Pierre Belmar restera un visage hein, de TF1, notamment aux côtés de Christophe de Chavannes que vous citiez. Il a continué à raconter des histoires dans Coucou, c'est nous. Ça a été un succès immédiat, le télé-shopping ?
Ah oui. Ah oui, c'était extraordinaire. Au bout de 15 jours ou 3 semaines, Pierre Belmar vient me voir en me disant, Patrick, on va vendre des manteaux de fourrure. Alors là, je lui ai fait un cours. Je lui ai dit, vous avez Pierre, un manteau de fourrure, une femme qui achète un manteau de fourrure, elle y réfléchit à deux fois, elle rentre, elle essaye, etc. Il dit, allez voir. En à peu près 42 secondes, on en a vendu 1200. Et lui, il m'avait expliqué ce que je n'avais pas compris. Il m'a dit, mais non, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui rêvent d'avoir des manteaux de fourrure et qui, ceux-là, sont pas très chers et qu'on se pas rentrer dans le magasin de fourrure.
C'est ça.
Parce que là, on leur expose.
C'est là, la télévision.
Les diamants.
Ça désinhibait l'achat. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur France Inter, Patrick Lelay, qui était donc le président directeur général de TF1 à l'époque. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Voilà, Pierre Belmar a été aussi un pionnier du jeu télé avec un producteur historique de l'ORTF qui s'appelait Jacques Antoine, un très très grand homme du petit écran. En 1954, ils créent tous les deux Télématch, dont l'une des séquences deviendra en 1960 La tête et les jambes, l'un des jeux les plus célèbres, les plus populaires de la télévision française.
Allô, Jules Ladoumègue ?
Oui,
je m'en excuse, j'étais tellement troublé tout à l'heure par les exploits extraordinaires du docteur Azoulay qui s'assoit à l'instant même à côté de moi, que je ne me suis plus souvenu du tout que le docteur avait droit à une erreur dans cette question. Mais quand même, vous allez courir pour l'honneur, car nous voulons quand même vous voir courir ce soir, Jules. Mais rassurez-vous, vous ne risquez rien, même si vous ne faisiez pas 1 minute 15 ce soir, le docteur aurait quand même gagné, car effectivement, je le reconnais, mea culpa, mea maxima culpa, j'avais dit que vous auriez droit à une erreur, ce qui était tout à fait normal, car la question était très difficile.
La tête et les jambes, le jeu que tout le monde a rêvé de faire revivre à la télévision. Bonjour Philippe Gildas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur France Inter pour rendre hommage à Pierre Belmar. Vous êtes vous-même un grand visage de la télévision. Un petit mot seulement pour dire que Maryse Corson, qui accompagnait Pierre Belmar dans le fameux télé-shopping dont on vient de parler avec Patrick Lelay, est votre épouse, Philippe. Alors Philippe, vous rejoignez l'ORTF au tout début des années 60, vous y rencontrez Pierre Belmar et vous prenez sa suite à la tête et aux jambes.
C'est lui qui m'a choisi. Hein.
Ouais. Comment ça s'est passé ?
Il m'a choisi. Je ne me souviens plus très bien pourquoi il ne pouvait plus cumuler.
Oui.
Mais à tous les coups, c'était ça. Il devait avoir une nouvelle émission à lancer, je pense. Et il m'a toujours fait confiance. Donc c'est vrai qu'on était dans cette situation tout à fait paradoxale. Que j'ai longtemps été aussi l'employeur de Pierre Belmar à Radio Luxembourg ou à RTL, je ne sais plus très bien,
ouais, à Europe 1.
Heureusement que Maryse est là à Europe 1, donc j'étais son patron, et à côté de ça, c'est lui qui me faisait travailler sur ses chaînes.
À la télévision. Voilà. Moi, j'aimerais que vous nous racontiez, Philippe Gildas, j'aimerais que vous nous racontiez Pierre Belmar, l'inventeur, parce qu'on sait que c'est un immense conteur, on sait que c'est un visage populaire, on sait moins que c'est quelqu'un qui a innové, créé et inventé sans cesse à la radio comme à la télévision.
Il faut dire qu'on n'avait pas le choix à cette époque-là, hein, si vous voulez. C'est-à-dire que tout d'un coup, la radio, il n'y avait pas encore les télés. Hein.
Mm-hmm.
Donc la radio, tout d'un coup, a été obligée de réfléchir à la suite en fonction des images qui tarderaient pas à arriver.
Oui.
Et c'est là où Belmar a été extraordinaire. D'abord parce qu'il avait une vraie gueule, deuxièmement parce qu'il avait commencé à faire ça bien avant la mode, justement, des émissions avec des images.
Oui.
Ça paraît incroyable, mais jusqu'à la guerre de 39-45, il n'y avait pas d'image à la télé, quoi. Mm. C'est pas, enfin, à la radio, qu'est-ce que je dis à la télé, il n'y avait pas de télé, quoi.
Mm.
tout bêtement.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et en plus, elles ont mis longtemps à rentrer dans les.
Ensuite, elles ont mis longtemps. Oui. Et deuxièmement, c'était des copies de la radio, si vous voulez.
C'est ça.
Alors, les tout petits bouts d'image, le talent tenait essentiellement de conducteurs. Si les animateurs étaient de bons comédiens, ce qui était le cas de Bellemare, ouais. Ben évidemment, il avait sa place tout de suite parce qu'il envahissait. Je ne sais pas si vous vous souvenez bien. Mais il envahissait l'écran. Et en plus, ce monsieur qui était gentil dans la vie l'était aussi à la télévision. Et c'est pas toujours donné parce qu'à l'époque, à la télévision, on avait tous un peu peur. Je le sais parce que il m'a emmené très vite à la télé. Et quand on débutait comme ça par la télé, on se rendait compte de rien. Il n'y avait pas encore de retour, par exemple, pour nous qui passions à la télé pour les premières fois, et puis qui passions tous les jours. Hein.
Oui.
Donc, on était obligé de se lancer dans le vide, en quelque sorte. Hein. C'était pas drôle tout le temps, mais très très vite, on y a pris goût, parce que c'était quand même amusant de savoir que non seulement on avait la parole, mais on avait aussi nos gueules.
Alors, parmi les choses que Pierre Bellemare a fait avancer au petit écran et au micro, donc il y a eu beaucoup d'allers-retours aux États-Unis, ça je l'ai raconté, il avait une grande passion pour ce pays. Il ramène des États-Unis le prompteur. Ça n'existait pas en France, Philippe Gildas.
Ça se passe en deux temps, en fait.
Ouais.
Hein. Le prompteur, ça existait en France.
Mm-hmm.
Puis le jour où j'apprends que Pierre, avec qui je travaillais, surtout à Europe 1 à l'époque,
ouais.
Surtout à Europe 1, quand j'apprends qu'il va là-bas, je lui raconte quand même que c'est pas normal. Au Vue de Chaumont, où je travaille moi pour la tête et les jambes,
oui.
Il y a des prompteurs. Et il y a surtout des choses qui ont été préparées, qui ont été importées des États-Unis. Et pourquoi il n'y en a pas pour les journaux? Pourquoi il n'y en a pas pour les animateurs? Tu devrais regarder là-bas. Et il est revenu. C'est comme ça qu'il, quand il est parti là-bas, il est revenu avec toute une rafale de plaquettes pour qu'on puisse enfin faire de la radio avec des images, voilà.
C'est ça, de la radio avec des images, c'est-à-dire de la télévision. Il importe aussi des...
Ça s'appelle de la télévision.
C'est ça, ça s'appelle de la télévision.
Mais à l'époque, on disait même pas ça, on n'osait pas dire ça.
Il importe aussi des États-Unis une émission restée culte qui s'appelle Candid Camera. Ça donne Garder le sourire sur Europe 1 avec le comédien Jacques Legras qui va malmener des kidas, malmener des commerçants et tout ça. Et puis ensuite, ça arrive à la télévision française et ça donnera la caméra invisible. Ça donnera les premières caméras cachées.
Oui. Europe travaillait beaucoup à l'époque. Hein.
Oui.
Grâce à Bellemare d'ailleurs, hein, qui faisait le pont, travaillait beaucoup effectivement avec la télévision nouvelle.
Oui.
Et il fallait vraiment réussir à convaincre. Et le plus simple, ça paraît incroyable aujourd'hui, mais à l'époque, le plus simple, c'était de partir de ce qui se faisait à la radio et qui était de plus en plus audacieux.
C'est ça.
Parce qu'on voyait bien qu'il fallait commencer à faire quelques images, mais elles étaient totalement déliquescentes, hein, les images. Et pour cause, il n'y avait pas le matériel et
c'est
pas
ça.
L'envie de le faire.
C'était mais les grilles de programmes de radio qui inspiraient la télévision.
Voilà. Ouais. Exactement ça, il faut quand même le faire. Mais lui, là-dessus, était formidable, d'abord parce que c'était un improvisateur de première bourre, et puis c'était un professeur aussi qui avait une capacité à vendre les choses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi j'avais fait des journaux télévisés. Mais les journaux télévisés, on a des textes, on les écrit soi-même. Et puis c'est sérieux, donc il n'y a pas de version possible. Et bien il m'a pris, et je n'ai toujours pas compris pourquoi il m'a appelé moi, qu'il connaissait à la radio, ça c'est vrai.
Ouais.
Pourquoi il m'a appelé pour aller faire des émissions de variété à la télévision, et de me faire confiance comme ça, et c'est lui qui m'a appris à faire de la télévision en clair, quoi, voilà.
Merci beaucoup, Philippe
Gildas. Ça s'appelle oui. La tête et les jambes. Faut dire que c'était, j'ai quand même eu du pot, parce que c'était quand même un cadre extraordinaire. Vous vous rendez compte la chance qu'il faut dans ce métier. Je vous en souhaite tout autant.
Merci beaucoup, Philippe Gildas. Merci beaucoup et nos amitiés à Maryse, dont on vient d'entendre un des extraits de cette célèbre émission. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir été sur France Inter ce matin. Et pour poursuivre cet hommage à Pierre Bellemare, pour raconter l'histoire de celui qui racontait celle des autres, je voudrais vous faire entendre l'extrait de cette émission de TF1 que Pierre Bellemare crée en 1979. Resté célèbre, c'est arrivé un jour. Des histoires vraies, des histoires croustillantes, des faits divers.
Bonsoir. Deux hommes, deux trappeurs marchant dans les collines du Dakota. Ils cherchent à tuer un ours, un bel ours noir, car un marchand de Kiowa leur a promis énormément d'argent pour cela, et les deux hommes ont terriblement besoin d'argent. L'ours noir est par là, quelque part dans les collines, Et lui aussi cherche une proie, car il a terriblement besoin de manger.
Bonjour Jacques Pradel.
Bonjour Sonia.
L'heure du crime sur RTL. Jacques, Pierre Bellemare restera, comme vous sans doute, un immense conteur et une voix qui a marqué les Français, une voix associée aux frissons, aux crimes, aux faits divers, dans lequel il mettait un lyrisme incroyable.
Oui, moi, pour moi, Pierre Bellemare, il fait partie de ceux qui m'ont donné envie de faire de la radio. Bon, c'est effectivement une voix, un rythme, un personnage aussi. C'était quelqu'un de très imposant physiquement, qui avait une présence incroyable, à la fois d'ailleurs à la télé et à la radio. Il a remis au goût du jour en France, où il a introduit ce que les Américains appellent « true stories », les histoires vraies, « true crime », avec donc les ingrédients du polar, en fait, mais c'est du polar de la vie, c'est du polar où tous les personnages sont réels et où ça se termine en général très mal, c'est-à-dire comme dans la vie et pas comme dans les romans, quoi. Et c'est vraiment le talent incarné du conteur. C'est quelqu'un qui a le sens du récit, qui sait, quand on raconte une histoire, par où commencer, mettre, introduire du suspense, comme justement dans les vrais polars. Donc il y a... c'est toujours ce que je prends comme image quand on parle de télévision et de radio. En radio, on est dans le monde des artisans. Avec lui, on est tout de suite dans l'histoire, et la manière dont il présentait ses histoires, ça m'a imprégné lorsque j'ai introduit des récits dans mon histoire. D'abord parce que ça fait gagner du temps qu'on ne perd pas avec les invités pour revenir sur une histoire, et en même temps, ça a le mérite d'emmener tout de suite les gens et de les plonger dans un fait divers ou une histoire extraordinaire. Donc c'est beaucoup de talent, beaucoup de transpiration, égagement. C'est un immense professionnel.
Jacques Pradel, il y a une autre émission, alors dans un tout autre registre, signé Pierre Bellemare, qui a énormément compté pour vous. On était en 1956, jusque dans les années 60, c'était sur Europe 1 et ça s'appelait « Vous êtes formidable ».
Ah mais ça, c'est une émission phare de la radio en France. C'était... comment un animateur, un présentateur, qui était donc Pierre Bellemare, le type en qui on avait confiance, qui savait toucher notre sensibilité, pour réunir un élan de solidarité des auditeurs qui écoutaient l'émission, de façon à venir en aide aux autres. Il a amené l'électricité dans des villages qu'il attendait depuis des années. Il a quelquefois raconté l'histoire de gens tout à fait obscurs qui faisaient pas parler d'eux dans des petites associations et qui avaient besoin d'un coup de main. Je sais que par exemple pour les jeunesses musicales de France, à une époque, avaient eu un vrai problème, parce qu'ils étaient prêts à mettre la clé sous la porte, ils n'avaient plus d'argent. Je crois qu'il a réuni peut-être une quinzaine ou une vingtaine de millions d'anciens francs dans la nuit pour que l'association puisse durer. Et voilà, il les a sauvés.
Et c'est toute la puissance du média radio aussi que Pierre Bellemare a incarné à une époque à travers sa voix.
Absolument, c'est l'ADN de la radio. Mm. C'est la radio, pour moi, ça demeurera jusqu'à la fin des temps quelqu'un qui raconte une histoire à quelqu'un. Voilà, et qui la raconte bien.
Merci beaucoup Jacques Pradel. L'heure du crime tous les soirs sur RTL. Merci d'être venu rendre hommage à Pierre Bellemare. Donc, à vous trois, merci. La voix qui a accompagné les Français durant plus de 60 ans.
Un homme extraordinaire.
Qui s'est éteinte hier à l'Irébéillé d'Avec.
Je l'ai rencontré une fois.
Ouais.
Extraordinaire.
Mais je crois que tout le monde est unanime. Alors, combien vous fasse tout à l'heure.
L'andropause, qu'est-ce que c'est que l'andropause? Ce phénomène biologique assez méconnu qui touche certains hommes et qui se traduit par une très nette baisse de la testostérone à partir de la cinquantaine. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000, toutes vos questions sur l'andropause et sur la baisse du désir à partir de la cinquantaine, soixantaine.
Allons-y.